et bienvenue sur les ondes de Radio Galère pour cette nouvelle édition des carnets hebdomadaires de Comaguerre sur l'actualité internationale. Je salue notre nouvelle équipe technique, là, donc je salue Roselyne bien entendu qui est aux manettes de l'autre côté de la vitre et Clélie qui vient voilà, pour participer à cette activité. Et puis on attend Habib qui je pense va venir un peu plus tard. Alors, j'ai commencé par vous donner des petites nouvelles, puis après on s'attardera sur un sujet un peu plus ample qui concerne les relations entre Iran et Israël. Mais je vais commencer par vous donner des noms de personnes que vous ne l'avez jamais rencontrées, que vous ne rencontrerez jamais. Il y en a un qui s'appelle James Henderson, 31 ans, qui a servi pendant 6 ans dans les Marines, donc le corps d'élite de l'armée des États-Unis. Le second s'appelle John Chapman, 54 ans, qui a servi dans les services, les forces spéciales en Afghanistan. Le troisième s'appelle James Kirby, il a 47 ans et il a servi aussi en Bosnie. Bonjour, bonjour. Alors je salue l'arrivée de Habib et de Véronique, voilà, qui s'installe. Véronique, c'est la fille de Habib. Je dis tout à la radio, tant pis, je dis tout.
Voilà. Installez-vous. Bloqué par un camion.
Ah, installez-vous, installez-vous. Donc je citais les noms de personnages qui sont inconnus de nous, mais pas d'autres. Donc James Henderson, John Chapman, James Kirby. Trois personnes qui ont travaillé donc, dans l'armée des États-Unis sur différents théâtres d'opération. Et qui font partie des 7 morts de la fameuse attaque contre la fameuse ONG de la cuisine générale. J'appelle ça la cuisine générale, puisque c'est ça que ça voulait dire. Le World Central Kitchen. Vous avez tous entendu parler de ça. Bon, alors on a des noms. Alors on s'aperçoit que ces bénévoles, ces humanitaires et tout, étaient en fait d'anciens soldats de l'armée des États-Unis qui étaient en service commandé et qui avaient été recrutés par cette ONG un peu particulière pour amener de la nourriture aux Gazaouis qui, paraît-il, leur manque. Et en même temps, on comprend mieux maintenant, d'une part, que ces trois personnes, plus les quatre autres, les 7 défunts de l'attaque donc, de ce convoi de la cuisine internationale ont été célébrés. Je rappelle, parce que ce n'est pas très, très fréquent, que la Maison-Blanche, le président des États-Unis, a exprimé ses condoléances pour ces trois personnes-là, ce qui n'est pas très courant, alors qu'il a exprimé 0 condoléances pour les 35 000 morts palestiniens de Gazaoui. Donc, effectivement, pour lui, ça le touchait, puisqu'en fait, c'était ses employés, tout simplement. Il a donné un coup de chapeau à 3 de ses employés et aux 4 autres qui étaient du même acabit qui en sont morts. Voilà. Voilà. Donc, ça éclaire un peu cette ONG un peu particulière, donc qui était censée distribuer de la nourriture à des Gazaouis, qui pour l'instant a un peu des soucis. Elle se dit, est-ce que je vais continuer? Parce que si chaque fois, il y a 7 morts parmi les convoyeurs de la nourriture, ça pose question. Mais en fait, ça permet de comprendre mieux pourquoi cette ONG, tout d'un coup, s'était vue donner le privilège d'être quasiment la seule à apporter de la nourriture à Gaza. C'était très simple parce qu'avec le métier de ces gens-là, je rappelle donc les Marines, les forces spéciales, etc., ces gens-là avec une mission très très particulière, c'était en suivant la nourriture, en suivant chaque lot, chaque morceau, chaque ration qu'ils allaient pouvoir apporter à l'intérieur de la zone de Gaza, ils allaient pouvoir demander, et si on allait là, parce qu'on leur aurait dit, là, il y a quelqu'un d'intéressant. Et on peut imaginer, par exemple, si quelqu'un leur avait dit, je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'est passé, là, vous avez les 3 fils de M. Ismaël Haniyeh, on peut y aller. Ouais. Et donc, ils étaient chargés de la détection de l'opposition militaire et même de choisir des endroits pour des frappes. C'était parfait. Donc, ils avaient les mains blanches, propres, ils avaient la bénédiction du gouvernement des États-Unis et des autres, et ils pouvaient circuler librement dans Gaza. Alors, c'est plus tout à fait ce qui va se passer, parce que là, il doit y avoir effectivement un recalibrage de l'opération. Mais c'était intéressant de le rappeler. Donc, petit à petit, vous voyez, les choses arrivent après donc, les condoléances de la Maison-Blanche, du Pentagone et tout. On arrive un peu à voir beaucoup plus clair dans cette cuisine qui est finalement bien nommée. Vous savez que dans l'argot en France, quand on dit c'est une drôle de cuisine, c'est pas très, très propre. Ben là, c'était exactement le cas. Voilà, j'en finis là. Alors, je le dis avec le sourire, c'est un peu triste. Bon, ils sont morts, mais ils savaient, enfin, c'est des gens qui étaient habitués à fréquenter la mort, puisque quand on a passé 6 ans chez les Marines, si on a passé un certain nombre d'années en Afghanistan, en Bosnie et autres, comme force spéciale, on sait qu'on met sa vie en jeu tous les jours. Bon, donc, ils sont morts en faisant leur métier, finalement. On ne peut pas dire autre chose. Alors, ils ont peut-être aussi des femmes et des enfants, c'est très possible, mais les femmes et les enfants doivent savoir avec qui ils se sont mis en ménage. J'essaie de me mettre dans la peau de la femme d'un monsieur qui est dans les forces spéciales américaines. Elle doit savoir, il dit « je m'en vais ». D'abord, il ne dit pas où il va, il ne dit pas combien de temps il va rester, et il ne sait pas s'il va revenir, et elle non plus. Et je pense que dans la vie d'un couple, ça ne doit pas être facile. Bon, mais c'est comme ça. Mais il y a, hélas, il y a toujours des gens qui sont capables de faire ça. Voilà. Ça, c'était les premières nouvelles pour commencer. Une deuxième nouvelle qui est importante et qui n'a peut-être pas été beaucoup publiée, c'est que désormais le porte-avions Charles de Gaulle, vous connaissez notre vaisseau amiral, seul porte-avions à propulsion nucléaire et à armes nucléaires de la France, et un des rares pays à avoir ce genre d'armement,
et assez vieilli.
Il a vieilli, c'est pour ça qu'il est question d'en faire un remplaçant, mais un seul aussi avec toutes les limites du genre. Ce porte-avions a été mis au service de l'OTAN. Il est sous commandement OTAN depuis quelques jours. Alors ça, c'est nouveau, puisque c'est nouveau. La France fait partie de l'OTAN, mais jusqu'à présent, le président de la République, chef des armées, était le maître de son armée et de son porte-avions. Or là, ce porte-avions est passé depuis la semaine dernière sous commandement OTAN. Et devinez où il est allé, ce porte-avions sous commandement OTAN, mais il est allé au large de la Palestine, bien entendu. Et probablement, alors vous savez qu'autour d'un porte-avions, il y a toute une série, il y a d'abord un sous-marin d'attaque nucléaire, il y a toute une flotte d'accompagnement. Il est allé observer ce qui se passait dans le ciel une certaine nuit de samedi à dimanche dernier, sur laquelle je vais un peu m'éterniser tout à l'heure. Bon. Et voilà donc ce que je voulais savoir, c'est un abandon de souveraineté manifeste. C'est-à-dire le chef des armées françaises a décidé que son principal navire de guerre était sous commandement otanien, je suis gentil, américain pour être beaucoup plus clair. Ça, c'est une première. C'est une première parce qu'une chose est être dans le commandement intégré de l'OTAN, c'est-à-dire coordonner les armées des uns et des autres parmi les membres de l'OTAN. Autre chose est de dire ma meilleure unité, l'unité phare de la marine française, elle est désormais sous commandement d'un amiral américain. C'est un passage, c'est pas qu'une nuance, c'est beaucoup plus important que ça et ça méritait d'être dit. Et oui, parce que c'est la première fois que ça arrive. Et donc, il y a de bons esprits qui ont dit « De Gaulle doit se retourner dans sa tombe. Ah, c'est pas la première fois, mais là, il peut faire un vrai saut de carpe dans les deux sens. Vrai. Parce qu'effectivement, il n'aurait pas imaginé que ça se passerait comme ça. Ensuite, les petites nouvelles, il y en a beaucoup, mais... Les soldats, puisque je suis dans l'armée française, il faut savoir, c'est confirmé maintenant par au moins des sources russes qu'il y a effectivement des soldats français quelque part vers Slaviansk. Alors Slaviansk, c'est dans la partie nord du front actuel en Ukraine. C'est principalement des membres de la Légion étrangère qui ont été donc apparemment volontaires et qui probablement ont un traitement de faveur pour ce genre de choses, et un certain nombre de mercenaires qui sont là, paraît-il, pour aider à l'utilisation des armes françaises, les canons César ou des choses comme ça. Il n'y a pas beaucoup de détails. Mais ce qui est certain, c'est que leur présence a été bien observée par l'armée russe et que l'endroit où ils se trouvaient a été copieusement attaqué par une bombe spéciale russe. Donc il y a certainement beaucoup de blessés et peut-être un peu plus. Alors là, je vais me retrouver dans la situation que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y aura quelque part des veuves qui diront « Mon mari est parti en Ukraine, il n'est pas revenu ». Mais ça, donc il est bien confirmé qu'il y a des troupes là-bas et il est tellement confirmé que les Russes le savent et que donc ils ont envoyé ce qu'il fallait à cet endroit-là pour essayer de les dissuader. Alors c'est intéressant de revenir là-dessus parce que ça devait arriver évidemment puisqu'on n'envoie pas des soldats sous uniforme français dans cette zone-là en espérant qu'il leur arrivera rien. On est quand même dans une zone où il y a la guerre et donc ce sont des guerriers sous uniforme. Bon. Mais... apparemment, l'idée un peu perfide que Macron avait en tête, c'était de dire « la France est attaquée, la France part en guerre ». Oui, alors, on veut bien, mais là, ce n'est pas la France qui est attaquée, c'est un corps de mercenaires volontaires sous un uniforme français qui vont dans une opération où personne ne leur a demandé d'aller et qui ne défendent pas les intérêts de la République française. Il n'y a pas d'intérêt de la République française à cet endroit-là du monde. Donc, il s'agit bien d'une opération macronienne faite sans accord de l'Assemblée nationale, sans consultation de la représentation nationale, faite dans le parfait arbitraire de monsieur le chef des armées. Là-dessus, tout est parfaitement clair. Et avis au suivant, c'est-à-dire que les Russes n'ont pas tardé, parce que ça s'est passé dans les 48 heures de l'arrivée de cette équipe-là, là-bas. S'il y en a d'autres qui arrivent pour les remplacer, ils sauront que ce sera exactement le même traitement. Et ce qu'on sait alors, parce qu'on va un peu plus loin, puisqu'il y a des gens qui observent et qui savent à peu près de qui il s'agit, parce que ces gens qui sont dans la Légion étrangère, ils ont quitté une unité de la Légion étrangère. Et donc ça veut dire qu'ils ont laissé des copains à eux qui sont dans la même unité, qui les connaissent, qui les côtoient au quotidien et tout, et qui les situent pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils ont dans la tête. Et ça c'est intéressant parce que ça permet une espèce de début de sociologie de ces légionnaires mis à disposition de l'Ukraine. C'est-à-dire que les gens qui observent ça disent on a une évolution, c'est-à-dire que les premiers volontaires français qui sont arrivés au début de la guerre en 2022-2023 étaient des gens qui venaient là parce qu'ils aiment bien... Le combat, ils aiment bien, c'est des durs à cuire, des baroudeurs. Voilà. Maintenant, apparemment, le critère est beaucoup plus sur une base idéologique. C'est-à-dire, il s'agit de gens qui sont d'accord avec l'idéologie du gouvernement ukrainien et qui ont des sympathies d'extrême droite extrêmement marquées. Et c'est ça qui les mobilise pour aller à cet endroit-là de la lutte. Donc on a une évolution intéressante à suivre. Alors je vous signale, parce que je le sais personnellement, qu'il y a eu ces 10 dernières années beaucoup d'engagés volontaires ukrainiens dans la Légion étrangère française.
C'est vrai.
Et donc je pense que parmi eux, on va trouver nécessairement des membres de ce contingent qui viennent là pour des raisons idéologiques, puisqu'il c'était déjà pour ça qu'ils étaient venus là. Voilà. J'en dis pas plus, mais c'est intéressant à replacer, et ça veut dire là aussi... arbitraire total du chef de l'État, chef des armées, qui fait ce qu'il veut, qui fait des effets d'annonce sur les télévisions internationales et qui, en fait, engage la France, parce que c'est des gens qui sont sous uniforme français, issus d'une unité de l'armée française. C'est beaucoup plus qu'un mercenaire qui vient vendre sa peau pour son intérêt personnel. C'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus dangereux. Ça ne veut pas dire qu'il y aura solidarité des autres pays de l'OTAN du tout, parce que l'OTAN n'a rien dit. L'OTAN a même dit qu'elle ne mangeait pas de ce pain là. Hein. L'OTAN, on sait, elle envoie des conseillers, des spécialistes en informatique, en télématique, en tout ce qu'on veut, mais elle ne joue pas à ça. Là, envoyer au combat quelques, on dit 1500 personnes à peu près sont sur les rangs de l'armée française, c'est engager la France dans un combat pour lequel la France n'a rien donné comme assentiment.
Au je début, dis la France. Il avait dit plus de 20 000 hein, qui voulaient envoyer.
Voilà. Ça, hein. Alors je dis la France, l'expression collective des 66 millions de citoyens. Il y a zéro expression collective des 66 millions de citoyens. Ouais. Que mais les choses soient
Bernard,
bien claires dessus. Oui,
oui moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que donc Macron envoyait ces gens-là en Ukraine,
oui.
En sachant très bien qu'ils allaient au casse-pipe.
Oui.
Voilà. Oui. Et qu'après, du coup, la France se positionnerait comme victime de la Russie, qu'elle dégagerait d'autres moyens encore pour faire la guerre, etc., et que ça nous retomberait sur nous, petits
alors,
citoyens.
Alors, la suite, effectivement, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que ça s'inscrit dans l'annonce de Macron. Nous sommes en guerre, donc vous voyez, on envoie des soldats, il va falloir en envoyer plus, il va falloir envoyer à nouveau des canons César, il va falloir envoyer à nouveau des obus, et donc il faut de l'argent pour faire ça. Et donc on en arrive, on est en plein dans la logique mussolinienne, c'est ou le beurre ou les canons. Alors Macron a déjà choisi, puisque vous savez que le maire est en train d'essayer de trouver, de gratter déjà 10 milliards d'euros dans les crédits de différents ministères. On va mettre en cause certaines dispositions de la sécurité sociale, je le précise, c'est très très important. Et donc il va falloir trouver ces 10 milliards. Ces 10 milliards, il les faut pour effectivement payer la suite des mercenaires, payer les nouveaux canons, payer les nouvelles munitions. Là, on met ce président met la France devant un choix qu'elle n'a pas fait, de façon arbitraire et unilatérale. Et c'est ça qui est en cause. Et ce n'est pas autre chose. Le fond du problème...
Certains officiers supérieurs, ils n'étaient pas tellement d'accord.
Et non, d'ailleurs, alors, à mon avis, ce qui va se passer, on le sent à différents signes. Alors, pour l'instant, ça se passe surtout dans la bouche de généraux ou d'amiraux retraités. Mais ils commencent à dire... Où nous en mettent-ils ? C'est-à-dire, ils prennent une vraie distance avec l'appareil d'État, avec l'Élysée, disons, pour faire ça. Et ce qui est important de savoir, c'est quand dans ces cas-là, un amiral ou un vice-amiral ou un contre-amiral, peu importe, un général à 2 étoiles, à 3 étoiles, à la retraite s'exprime, ça veut dire que ce monsieur, il a encore des amis qui ont fait Saint-Cyr en même temps que lui, qui ont fait l'école navale et tout. Donc il s'exprime lui en tant que retraité parce qu'il ne craint rien et que les autres ont le devoir de réserve. Mais en fait, ça veut dire qu'il y a au sommet de l'armée française des gens qui disent « Macron est en train de nous engager dans une aventure très très dangereuse ». Mais ils ne peuvent pas le dire, bien entendu, puisque vous connaissez les règles du devoir de réserve des hauts fonctionnaires, fussent-ils militaires ou pas militaires. Ça, c'est très, très important de bien situer ça, parce qu'on est en plein dans cette période-là, où effectivement, alors on va essayer de nous faire larmoyer sur ces volontaires à aller au combat et qui ont laissé la peau, mais il faudra bien voir que le sujet les dépasse très très largement, puis c'est un sujet éminemment politique. Le président de la France doit choisir s'il veut que la France soit en guerre ou soit pas en guerre. C'est ça le seul choix. Et c'est là-dessus qu'il faut que tout soit très clair. À ce propos d'ailleurs, climat de guerre, je voyais dans les rues, je vous le dis parce que ça m'a frappé, il va sortir récemment, je n'ai pas regardé quand, un film qui s'appelle Civil War, en anglais, hein, guerre civile. Le surtitre, c'est Monumental, classique. Et en fait, c'est très intéressant parce que ça correspond à une utilisation de la mécanique hollywoodienne qui consiste à mettre dans la tête des gens des espèces de rêves sur l'actualité politique. Parce que sortir en ce moment ce type de film, hein, Civil War monumental, avec tous les effets hollywoodiens qu'il peut y avoir, ça veut dire qu'on veut nous baigner, nous faire immerger dans ce climat où la guerre civile est possible et où il va devenir normal de dire ah ben, le voisin d'à côté, hein, et là on pense au tout et au tout-ci, le voisin d'à côté ne m'aime pas ou je l'aime pas et je vais aller le tuer quand il sortira de chez lui. C'est ça le climat de guerre civile et c'est très très dangereux que l'industrie cinématographique des États-Unis se livre à ce jeu-là. C'est pas la première fois qu'elle le fait, mais c'est un petit signe qui n'est pas tout à fait le hasard. Ça sort maintenant, Civil War, la guerre civile. Préparez-vous aux guerres civiles, préparez-vous à vous entretuer. Parce que quand vous entretuez, vous nous laissez tranquilles. Hein, c'est ça la logique politique, on la connaît très très bien. Voilà, c'est quelques propos introductifs. Et alors, il y en a d'autres. Il y a beaucoup d'évolutions sur la scène politique. On a d'une part le Japon qui, c'est pas une surprise, s'est laissé prendre dans la fameuse alliance Australie, Nouvelle-Zélande, États-Unis, Grande-Bretagne. C'est-à-dire le Japon se comporte, hélas, comme une puissance anglo-saxonne. Position d'ailleurs qui confirme ce qu'il a été pratiquement depuis 1945. C'est-à-dire que le résultat politique, et c'est triste à pleurer, le résultat politique des deux bombardements d'Hiroshima et Nagasaki, c'est que le Japon n'a pas pu redresser la tête, c'est-à-dire se situer indépendamment de ceux qui l'avaient bombardé. Et ça, c'est très très important à comprendre. Il y a eu des tentatives. Il faut savoir que le parti qui est arrivé au pouvoir en 1945 avec l'empereur Hirohito maintenu à son poste par la grâce des Américains et du chef qui s'appelait le général MacArthur est resté au pouvoir et que le seul parti qui est le Parti démocrate libéral japonais n'a pas perdu une seule élection depuis 1945. Et donc c'est un parti qui est lié corps et âme aux États-Unis. Et là, il le confirme. Les États-Unis viennent en disant maintenant, hein, mettez-vous dans notre camp une bonne fois pour toutes. Et ils signent. Alors, ils ne sont pas les seuls, puisque les Philippines, alors les Philippines, vous savez, sont présidées depuis par un héritier de la famille Marcos, donc qui est une pépinière de dictateurs, la famille Marcos, donc est en train d'être soudoyée, retournée par le gouvernement des États-Unis. Et donc, la plus grosse partie des bases des États-Unis qui étaient dans les Philippines vont être réaménagées. Il y a déjà des crédits qui ont été votés par le Congrès. Et donc, les Philippines redeviennent. Il y a eu un moment de flottement avec le président précédent. Puis là, c'est vraiment retombé dans les mêmes ornières. C'est-à-dire que les Philippines redeviennent l'allié des États-Unis qui est chargé d'encercler la Chine par la voie maritime. On a compris la mécanique. Ce n'est pas la première fois qu'elle fonctionne. Mais c'était à noter parce que ça y est, c'est vraiment parti. Il y a les crédits, il y a le Congrès, il y a tout ce qu'il faut. Il y a les visites de Blinken, il y a les visites d'Austin, tout va là-dedans. Et dans la famille Marcos, on n'a pas de grosse capacité de résistance à ce type de politique, puisque la famille Marcos a quand même été mise au pouvoir par les États-Unis.
Oh, c'est sûr.
Voilà, ça c'était intéressant à noter. Alors par contre, il y a d'autres gens qui se situent différemment, je vais en situer quelques-uns. Par exemple, ce n'est pas très fréquent, le ministre des Affaires étrangères de la Biélorussie, le Bélarus, comme on dit, s'est rendu en Algérie, pourquoi pas, et il a signé des accords de coopération pour l'industrie pharmaceutique, pour l'industrie mécanique, pour l'industrie des matériels travaux publics. Il faut savoir que le tout petit Bélarus, avec ses 10 millions d'habitants, est assez avancé technologiquement dans une série de filières qu'il a décidé de conserver. En pharmacie, ils sont bons. Ils font d'excellents poids lourds, des tracteurs, du matériel agricole. Et donc, effectivement, un pays qui veut se détacher, comme c'est le cas de l'Algérie, de l'influence occidentale, va trouver là un fournisseur de très bonne qualité. C'est ce qui se passe. Alors, je pourrais multiplier des exemples. Il y en a beaucoup comme ça. C'est-à-dire qu'on a une espèce de réorientation des courants d'échanges internationaux. Et un certain nombre de pays d'Afrique, à commencer donc par l'Algérie, se mettent à dire « Mais on peut acheter du matériel de bonne qualité sans se faire assassiner sur les prix ailleurs qu'en Occident. » Alors là, ce qui sera acheté au Bélarus ne sera pas acheté ni chez Sanofi, ni chez Thales. Eh bien, tant pis pour nous. Tant pis pour nous. On n'a pas cherché à faire autrement. Hein. On a cherché, au contraire, à travailler pour les États-Unis. Ce qui ne se fait pas. Ensuite, je reviens sur mon porte-avions, enfin, ce qui n'est pas le mien. Je n'ai pas d'ambition de ce côté-là. On revient sur le porte-avions. Que faisait le porte-avions? Alors, le porte-avions, il est là d'abord pour impressionner. Ça fait partie de la règle du porte-avions. Je suis là, j'ai des rafales à mon bord. Dans chaque rafale, il y a une bombe atomique. Donc, je suis un porteur de mort. Je dois faire peur, ça c'est clair. Et quand j'approche d'une côte, normalement le gouvernement qui est sur la côte en face, il doit trembler et faire pipi dans sa culotte. Bon, donc c'est ça le but. Mais en même temps, une fois qu'il y a lui et sa flotte tout autour, ils peuvent se livrer à différentes observations. Hein. C'est plein de grandes oreilles, ces appareils. Et donc ce qui s'est passé, c'est que comme le hasard fait bien les choses, le porte-avions et sa flottille étaient dans la nuit de samedi à dimanche dernier au large des côtes de la Palestine. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé en l'air, bien sûr. Ils ont dit « Oh, il y a un spectacle, il y a un feu d'artifice, etc. » Et ils ont regardé. Ils ont pris des mesures. Ils ont pris des photos. Ils ont fait marcher leur radar, etc. Donc, ils ont fait partie du dispositif de surveillance allié organisé par l'OTAN, puisque là, le porte-avions était sous commandement de l'OTAN, pour observer la riposte de l'Iran à la question donc, de la destruction du consulat d'Iran à Damas, dont on a parlé, qui s'est situé au début du mois. Alors pourquoi ils l'ont fait? Parce que tout le monde était prévenu, j'insiste bien là-dessus, parce que ça va nous permettre de donner une analyse de cette opération-là. Tout le monde était prévenu parce que, d'une part, tout le monde était prévenu parce que les Iraniens avaient dit « on ne laissera pas faire, vous avez violé toute la réglementation internationale sur les ambassades et les consulats, donc on ripostera ». Et ils l'ont dit quasiment du
premier. De toute façon, ils sont présentés aux Nations Unies.
Voilà. Voilà. En plus, ils ont posé la question au Conseil de sécurité où on n'a pas voulu accepter leur question. Le Conseil de sécurité, le 3 avril, a refusé d'avoir un débat là-dessus. Ouais. Bon, donc pour les Iraniens, l'affaire était claire. Hein, on n'en parlera pas. Donc ils ont dit, on va riposter. Et donc ils ripostent. Et comme ils avaient dit, on va riposter, tout le monde, toutes les grandes oreilles de l'Occident se sont mises en service.
Et ils ont pris du temps.
Voilà. Ils ont pris simplement du temps pour voir. Mais ils savaient pas quel jour, à quelle heure, etc. Mais tout était prêt, parce qu'il faut bien se rendre compte sur la carte que d'Iran à Israël, il y a 1100 km au plus court. Donc effectivement, les projectiles qui sont passés d'un endroit à l'autre, ils sont passés dans le ciel à des vitesses plus ou moins rapides. Il n'est pas établi qu'il y ait eu des véhicules hypersoniques, c'est possible. De toute façon, on les a vus passer dans le ciel. Vous avez vu même sur des images, en pleine nuit, effectivement, ça fait une certaine lumière. Et donc, on les a observés parce qu'ils sont passés. Alors, regardez la carte. De l'Iran à Israël, il faut passer soit sur la Jordanie, soit sur l'Irak dans tous les cas, soit même sur l'Arabie Saoudite, peut-être sur le Liban, peut-être un peu sur la Syrie. Enfin, tous les pays de la région sont concernés comme lieu de passage des objets volants plutôt.
C'est-à-dire le trajet entre 1100 et 1700. Voilà, exactement, hein,
parce que tout ne partait pas du même endroit d'Iran, puisque l'Iran...
Ils ont couvert tout le ciel ici.
Voilà, donc c'est ça. Donc il faut savoir que tout était prêt pour observer et tirer des enseignements. Ça donne déjà un caractère particulier à cette opération. C'est-à-dire que vous savez que l'Iran a dit « j'avais dit que je riposterais, j'ai fait ma riposte, c'est tout, l'affaire est close. Hein, c'est un but partout. Hein, vous avez tué l'équipe qui était dans le consulat, vous avez détruit le bâtiment du consulat, moi j'ai riposté, on n'en parle plus. »
Alors ce qui est le plus fort dedans, c'est que les Israéliens ils disent « ce sont des terroristes, on les a... ouais. Alors qu'eux, ils ont tué plus de 33 000... Palestiniens. Bon, ce n'est pas des terroristes, ils se défendent.
Oui, se défendent.
C'est fort.
Et donc voilà, tout le monde a observé, et donc ça donne un caractère particulier à cette opération, c'est-à-dire qu'elle était volontairement, de la part des Iraniens, limitée. Et ils l'ont dit tout de suite après, on a fait ça, il y a eu un coup d'un côté, un coup de l'autre, on n'en parle plus. Alors évidemment, c'est une chose qui est très très difficile à accepter dans la tête de Netanyahou. C'est quasiment peut-être insupportable pour lui ou incompréhensible. Et donc le jeu maintenant est très intéressant à suivre, c'est-à-dire que vont faire les autres, c'est-à-dire tous ceux qui ont observé les États-Unis en tête. Il est confirmé aussi dans les dépêches qu'on a pu lire que non seulement il y avait le porte-avions Charles de Gaulle et la flottille qui est autour, mais il y avait aussi les éléments des forces françaises qui sont en Jordanie et en Irak.
Exact.
Vous êtes au courant, vous en avez entendu parler? Interrogez votre député pour savoir si votre député vous dira quelles sont les forces françaises qui sont sur le territoire de la Jordanie. Est-ce qu'il y a un accord de défense entre la France et la Jordanie? Pas que je sache.
Non.
Est-ce qu'il y a un accord de défense entre la France et l'Irak? Pas que je sache. Eh bien, il n'empêche, il y a des soldats français en Jordanie et en Irak.
Des soldats français, anglais et américains.
Et il y en a d'autres aussi. Donc il y a beaucoup de monde. Ah, effectivement, tout ce monde-là, donc c'était alors grand spectacle, c'était grande vidéo, jeu de nuit vidéo, donc dans la nuit de samedi. Tout le monde regarde le ciel en sachant que les Iraniens allaient tirer, et tout le monde prend des photos, prend des mesures, etc., fait fonctionner ses radars. C'est ça l'opération telle qu'elle est. Alors c'est assez intéressant de voir les réactions de la grande presse. Alors, il y a les deux, parce qu'on a affaire à un débat qui n'est pas du tout le débat des militaires, c'est de dire qu'est-ce qu'on va dire aux citoyens de base. Alors, il y a première version, sur tout ce qui a été tiré par les Iraniens, il y a 99% qui a été abattu en
lui. Oui.
Bon, ça, c'est la version ouest classique, simpliste, ça ne sert à rien, il s'agite et tout, mais ce n'est pas bon. Bon. Et puis, il y a l'autre version, qui est un peu dans l'autre sens. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées sur l'objectif. Hein, et on garde les résultats pour nous, mais beaucoup plus qu'ils ne disent. Alors, donc ça, c'est le grand public. Le grand public, on va le séparer en deux. 90% des drones abattus et peut-être 50% qui sont arrivés. Alors, la réalité est probablement complexe entre les deux. Il y en a probablement qui ont été abattus en route, c'est possible, parce qu'il faut savoir que ceux qui attendaient, ils n'attendaient pas simplement pour prendre des photos, ils attendaient pour détruire tous les engins volants. Hein. Donc, ils avaient mis tout le matériel possible de détection et de contre-attaque en œuvre. Et ils en avaient beaucoup sur place, puisqu'ils sont bien installés, les uns et les autres, les États-Unis en premier, la France, la Grande-Bretagne et quelques autres, ils sont très, très bien installés sur place. Il faut savoir que quand vous allez quelque part, ça s'appelle Al-Tanf, la zone, c'est sur la frontière entre la Syrie et la Jordanie. Vous avez un endroit que le gouvernement syrien considère comme n'étant pas sous contrôle du gouvernement, où il y a une base qui s'étend des deux côtés de la frontière telle qu'elle est tracée dans le désert. C'est une ligne, ça ne veut rien dire, il n'y a pas de poste de douane, il n'y a rien du tout. Ouais. Et on sait que ce territoire-là, ben, il est occupé par l'armée des États-Unis qui est là, on ne sait pas pourquoi, enfin on sait très bien pourquoi en fait, et qui fait ce qu'elle veut, et qui a du matériel de tout niveau, des systèmes d'observation, de l'armement, etc. C'est la réalité de la Syrie à l'heure actuelle. C'est-à-dire, il faut savoir que la Syrie a un gouvernement qui n'est pas maître de chez lui. Il est maître d'une partie de son territoire, la partie la plus habitée. Il n'est pas maître de cette zone-là, qui est une espèce d'enclave américaine, non reconnue bien entendu. Il n'est pas maître non plus de la partie nord-est du territoire syrien, qui est occupée par différentes forces aussi, principalement des États-Unis.
Base
américaine. Alors, cette présence d'ailleurs dans le Nord-Est, je le rappelle, avait été officialisée par Donald Trump à l'époque, puisqu'il avait dit « Ah ben là, on m'a dit qu'il y avait une société américaine qui exploitait le pétrole syrien, bien entendu,
ouais.
Et donc, puisqu'il y a une société américaine, je la défends. Et donc, je mets des soldats autour des puits de pétrole, puisqu'ils sont à moi, mais c'est une société américaine. C'est à moi. C'est pas la Syrie. La Syrie, ça ne m'intéresse pas. » Donc voilà là, le climat, c'est-à-dire que il y a l'aspect grand public, média, 99% de chute et puis des résultats différents de l'autre côté. Et il y a la réalité, c'est-à-dire que toute cette mise en scène militaire de très haut niveau et très pointue, très coordonnée, l'OTAN y a mis beaucoup de son temps, les états-majors y ont mis beaucoup de son temps, l'état-major français, l'état-major britannique et tout, était destiné, c'est ça qu'il faut avoir en tête, à évaluer la capacité réelle des Iraniens à avancer. C'est-à-dire que tout ça va servir à une appréciation de la réelle capacité militaire iranienne pour voir l'épisode suivant. C'est ça qui est important. Même chose du côté des Iraniens, d'ailleurs. Les Iraniens disent, voilà, ils ont observé, ils ont vu ce qui est passé, ils ont vu ce qui n'est pas passé, ils ont vu les outils utilisés pour faire tomber leurs drones et leurs missiles, et donc ils en tirent des enseignements. Donc maintenant, du côté des états-majors, des deux côtés, on est en train de réfléchir tranquillement à ce qui s'est passé, avec une série d'observations. C'est un war game, comme on dirait dans le vocabulaire de tout le monde, en vraie grandeur. Et à ce moment-là, comme tout le monde a engagé beaucoup de moyens de toutes sortes, tout le monde va essayer d'en tirer les enseignements. Alors, ça ne se fait pas en 48 heures, et on n'en tire pas des conclusions à la Netanyahou disant « il n'y a qu'à leur rentrer dedans, détruisons tout ». On réfléchit et on mesure les capacités qu'on a d'affaiblir ou de détruire l'adversaire.
Non, c'est vrai que les Iraniens, ils sont pleins de sagesse, des gens qui ont de la patience.
Et oui.
Ils ont organisé ça d'une façon formidable.
Voilà. Ah oui, le vrai grand jeu, et donc je dis maintenant les militaires, enfin ceux qui sont sérieux, ceux qui font leur métier de militaire tel qu'il doit être, c'est de dire voilà, l'adversaire il est comme ci, comme ça, il a telle et telle capacité, qu'est-ce que j'ai comme capacité de riposte par rapport à ça, et qu'est-ce que j'en fais? Et à ce moment-là, c'est là qu'on revient aux politiques, une fois que les militaires disent ben voilà ce qu'on peut faire, et voilà là où on sera battu. Et donc à ce moment-là, le politique se repositionne en disant « bon, alors, si on n'a pas les possibilités de faire ceci ou cela, ben, on ne le fait pas. On ne va pas à l'échec quand on est conscient de l'échec possible ». C'est pour ça que j'essaye de sortir de cette présentation médiatique facile, parce qu'effectivement, pour l'auditeur moyen de France Inter ou de CNews, on va dire « qu'est-ce que ça veut dire ?» Et puis on va dire « mais il n'y en a aucun qui est arrivé, ils ont tiré des milliers de drones, ça a servi à rien, etc. » Bon, ça, ça va lui suffire. Mais en fait, le politique, ceux qui prennent vraiment les décisions d'importance, ne se satisfait pas de ça. Lui, il veut savoir exactement combien il y en a qui ont arrivé, de quel modèle, à quelle vitesse ils allaient, quelle était la charge qu'ils portaient,
etc. Il ne faut pas oublier, il y a certains aéroports qui ont été militaires, qui ont été bombardés.
Dans le Negev.
Oui.
En particulier, ça, les Iraniens l'ont dit.
Et c'est à 1700, à peu près kilomètres.
Voilà, donc c'est pas la guerre des boutons, hein, c'est quelque chose, c'est un vrai moment de guerre.
Vraiment réfléchi.
Voilà, c'est vraiment un moment de guerre, mais c'est un moment de guerre qui a été voulu des deux côtés. Enfin, ils étaient d'accord, enfin, ils savaient que ça aurait lieu, mais qui leur permet de préparer d'éventuels autres mouvements pour la suite. Chacun en connaissance de cause des capacités réelles de l'adversaire. Pas du discours, pas du blabla, on va les écraser, on n'en laissera pas un vivant, etc.
Ça les intéresse pas.
Non, mais ça, c'est pour la grande presse. Ouais. Ça n'a pas de sens. Hein. Un militaire, ça ne raisonne pas comme ça. Il n'arrive pas en disant l'adversaire, je lui mets le pied dessus, puis il n'y en a plus. Ça, c'est de la bande dessinée, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc c'était important de rappeler ce contexte-là pour bien reprendre de la distance par rapport au message médiatique de base consistant à dire « ils ont gagné, ils ont perdu » et tout. Ça, bon, ça vaut pour les matchs de foot, c'est pas ça. La guerre, c'est pas ça. Il y a des gens qui meurent, il y a beaucoup de moyens matériels, il y a des problèmes financiers. Il faut savoir, par exemple, qu'on a très vite su le coût pour Israël et pour les systèmes de défense donc anti-aérien, le coût de chaque missile anti-drone envoyé.
Bernard, oui. À ce qui paraît, ça a coûté aux Américains, aux Français, Anglais, 1 milliard pour détruire des drones.
Oui, c'est ça.
Alors que les autres, ça les a coûté quelques millions.
Voilà.
Les Iraniens. Hein,
ben, quand vous avez un missile anti-drone qui coûte 500 000 dollars pièce, quand vous en avez tiré 10 000, vous n'avez plus d'argent. Hein. Ouais. Donc c'est ça aussi la guerre. La guerre, c'est de l'argent. C'est pour ça que Macron cherche de l'argent, d'ailleurs. La guerre, alors, ce qu'on appelle souvent chez les théoriciens, on dit la guerre du faible contre le fort. La guerre du faible contre le fort, ça consiste à ce que le faible dit, mais évidemment, moi, je n'ai pas des centaines de milliards devant moi, je n'ai pas le budget militaire des États-Unis, mais j'ai mis au point, et c'est le cas de l'Iran depuis des décennies maintenant, des objets qui font un beau travail militaire, qui coûtent très très peu cher, et donc je peux en produire beaucoup, et je ne m'asphyxie pas économiquement en les fabriquant. Donc pour moi, une opération militaire, ça ne coûte pas grand-chose, ça ne me met pas sur la paille du jour au lendemain. Bon, c'est ça la logique. Il faut savoir qu'il y a toutes ces logiques en cause. Alors, elle est en creux, c'est dans la tête de Macron, parce qu'il sait bien que tout ça lui coûte. Et il sait bien que le budget de la France est un déficit dramatique.
Il y a 300 milliards, non ?
Oui, oui. Enfin, il faut savoir d'abord que l'Assemblée nationale vote un budget en déficit en début d'exercice. Il manque déjà au début 200 milliards en gros pour équilibrer les comptes. Ah. Et alors après, quand en plus on décide de faire des folies comme on fait là au Proche-Orient, il faut en trouver un peu plus. Hein, et c'est pour ça que Bruno Le Maire s'excite sur les comptes. Et c'est pour ça que probablement des modes de remboursement de la sécurité sociale, j'insiste, vont disparaître. Enfin, c'est pas fait, mais c'est en cours de discussion. Et ça touchera absolument la totalité de la population française qui n'aura évidemment pas voté pour ça. Alors,
j'aimerais bien qu'on dise que certains pays arabes, malheureusement, il n'y a pas eu une réaction. Une réaction médiatique pour l'Iran. Quand je vois un pays arabe comme la Jordanie...
Oui, mauvais exemple, j'allais dire.
La monarchie, quoi.
Bien sûr.
La monarchie du Maroc, la monarchie de la Jordanie et ses émirats, tout ça. Aucune réaction, je veux dire. Bon, c'est froid.
C'est froid. Alors, en fait, ce qu'on vit aussi à travers cette opération, on vit aussi un réaménagement des rapports diplomatiques dans cette zone-là du monde. Parce que je rappelle donc que l'Iran, le 1er janvier, est rentré dans les BRICS. De la même façon qu'est rentré dans les BRICS l'Arabie Saoudite, l'Égypte et les Émirats Arabes Unis. Mais effectivement, le fait d'être rentré dans les BRICS il y a 3 mois ne modifie pas en 3 mois les équilibres diplomatiques antérieurs. C'est un processus de longue haleine. Et puis, les BRICS, ce n'est pas une alliance militaire. Donc il faut qu'il y ait des discussions. On sait par exemple que le ministre des Affaires étrangères russe a passé son temps dans les avions pour aller voir les uns et les autres. C'était au moins pour bien faire comprendre, pour harmoniser un peu les positions, pour éviter les couacs, les prises de position brutales de gens qui n'auraient rien compris à ce qui se passait. Mais ce n'est pas possible. D'abord, ce n'est pas le but des BRICS, et ce n'est pas possible que les positionnements, quand ils sont de longue haleine, comme celui de l'Arabie Saoudite, qui depuis 1943 est entre les mains des États-Unis d'Amérique, ils ne vont pas changer ça en 3 semaines ou en 3 mois. C'est trop court. Ça va se faire. Simplement, le fait qu'ils soient silencieux, ça veut dire quand même qu'ils ne sont pas hurlés avec le loup israélien.
Non,
ça, c'est très important.
C'est vrai, oui.
Ça, c'est une première évolution. Mais il ne faut pas leur demander de miracles. Ce sont quand même des monarchies avec pas de contre-pouvoir démocratique, rien du tout. Donc, ils ne peuvent pas changer de position tout de suite. Mais là, ils sont quand même dans un dispositif qui est en train de transformer les relations.
Petit à petit.
Et puis, en fait, ils sont embêtés parce que je rappelle qu'avant les BRICS, le président chinois était venu réconcilier l'Arabie Saoudite et l'Iran.
Oui.
Qui avaient accepté tous les deux la réconciliation. Donc c'est difficile aujourd'hui pour le roi d'Arabie Saoudite et son équipe de dire « Ah, l'Iran, je les déteste, il n'y a qu'à tous les tuer », etc. Il ne peut pas le dire, il ne peut plus le dire.
Non.
Il peut à la rigueur le penser, mais c'est trop tard, je veux dire. Donc il y a ça qui est un élément nouveau de la situation et qui est en arrière-plan de tout ce que je viens de raconter. C'est-à-dire, les puissances sont en train de se repositionner. On dit dans la langue de courante, on dit le repositionnement des planètes. Mais en gros, c'est ça, à cet endroit-là du monde. Et quand vous pensez que dans les 5 nouveaux des BRICS, il y en a 4 qui sont là, c'est pas rien. L'Argentine, bon, elle a trahi parce que Milei est cinglé, mais c'est autre chose.
C'est vrai.
Donc, c'est bien là que se jouent les équilibres internationaux globaux, parce que c'est aussi là qu'il y a le gros de la ressource pétrolière mondiale, il faut le dire aussi. Et donc, on a affaire à une nouvelle étape dans cette transformation. C'est-à-dire que l'Iran peut dire « j'ai fait ce que j'avais annoncé que je ferais, j'en ai fixé moi-même les limites par mon discours officiel, et puis aux autres de bien comprendre ce que j'ai fait, mais effectivement, moi, je note. » Enfin, un peu à contrario de ce que tu disais.
Qu'est-ce que tu en penses?
L'Arabie saoudite n'a pas protesté en disant « honte sur l'Iran ». Il n'a rien dit parce que... Oui, vas-y.
Parce que, bon, là, il y a eu ça. Est-ce que... Probablement, est-ce qu'il y aura une riposte, mais peut-être différente?
Alors, je pense que du côté des sionistes, ils cherchent quel type de réponse.
Oui.
En sachant qu'effectivement, d'une part, les États-Unis vont être prudents sur le type de réponse annoncée, et puis riposter quoi faire? Quoi faire qui puisse faire mal aux Iraniens, à part encore s'en prendre aux Gazaouis qui ne sont pas directement responsables? On voit assez mal. Alors, hélas, j'allais dire, dans l'état d'esprit où est la direction israélienne à l'heure actuelle, je pense qu'il y a des idées, parce qu'il y a un certain nombre d'excités autour de la table, et donc ils ont peut-être des idées. Après, ils vont quand même, je pense qu'ils ont reçu des messages assez clairs du côté de la Maison-Blanche, en disant, ne faites pas n'importe quoi, parce qu'il y a des moments où on ne pourra plus vous suivre du tout. Ça ne va pas au-delà.
Est-ce qu'ils vont attaquer à Rafah?
Je pense. Alors voilà. Alors là, chacun fait son hypothèse.
Oui.
Moi, je le pense pas.
Ah, d'accord.
Je le pense pas parce que d'une part, D'une part, ils se sont aperçus, ça c'est la réalité concrète du combat dans la zone de Gaza, que la réalité concrète du combat, c'est que les soldats de l'armée israélienne qui s'aventurent à l'intérieur de la bande de Gaza n'en ressortent pas tous vivants.
Oui, ça oui.
Et on a en Israël la même réaction qu'il y a aux États-Unis, c'est-à-dire qu'un mort qui revient dans la bannière étoilée, tout le monde le voit aux États-Unis et ça passe mal, et c'est un peu la même chose à Tel Aviv et à Nazareth et à Jérusalem. Bon. Donc le nombre de morts israéliens au-delà duquel le gouvernement israélien sera mis en accusation par la population, il est petit, il est faible. Il est faible, à l'inverse. Alors autant il y a de morts chez les Palestiniens, ça n'a pas d'importance, ça ne compte pas. Puis ce n'est pas la même humanité, on a compris le raisonnement, ce n'est pas le mien. On a compris. C'est pas la même humanité. Mais là, donc il y a une limite, parce qu'ils disent, si on refait un autre coup, bon, on va encore tuer un certain nombre de gens, mais il y aura encore une riposte. Et la riposte, maintenant, elle était mieux ciblée, mieux caractérisée, mieux dimensionnée. On la connaît, la riposte iranienne. Donc, à mon avis, les calculs doivent être difficiles à faire.
Et
c'est pas, voilà. Je pense que, donc, c'est pour ça qu'à mon avis, l'attaque de Rafah, ce n'est pas pour tout de suite, si jamais elle a lieu. Roselyne, tu voulais dire ? Non. Non, non, moi,
Netanyahou s'est exprimé en disant, pour le moment, Rafah, on recule la date.
Voilà. Alors, parce que ça veut dire au moins qu'il y a un débat au sein de l'état-major israélien et au sein du gouvernement israélien. Il faut savoir, c'est une nouvelle fois, que Ehud Barak, l'ancien Premier ministre, a dit maintenant ça suffit, il faut qu'il s'en aille. Ah. Alors, quand il y a un Premier ministre israélien, bon, un ancien Premier ministre, qui dit le Premier ministre actuel est en train de nous emmener dans une impasse et une catastrophe pour le pays, qui dit ça, et qui s'apparaît dans la presse, évidemment, ça apparaît dans Haaretz, ça passe à la télévision, ça veut dire qu'il y a un vrai débat et que la position politique de Netanyahou est fragile.
Moi, je ne sais pas comment il s'en est pris, parce que là, en bombardant, en sachant bombarder l'ambassade, surtout de l'Iran à Damas, ça va très loin.
Mais oui.
Alors, je ne comprends pas qu'il n'a pas... ou alors, il a voulu sauver...
Alors, on ne sait pas, il faudrait savoir quel est l'état de
l'équilibre. Tribunal,
oui.
Enfin, oui.
Ouais. Quel est l'équilibre des courants à l'intérieur du gouvernement. Alors, on sait que le gouvernement Netanyahou, c'est un gouvernement avec une base Likoud, qui est le parti de Netanyahou, qui est la partie, j'ose pas dire la plus à gauche du gouvernement israélien, mais la moins pousse au crime, mais que les deux autres partis avec lesquels il a fait la majorité sont des partis d'extrême droite.
Oui.
Et donc, le débat, il est sans doute là. Est-ce que le Likoud veut survivre en tant que formation politique ou est-ce que c'est les deux autres qui lui imposent leur choix et qui mènent le pays à la catastrophe? C'est ça qui se joue. Je pense que ce n'est pas joué encore. C'est pas joué encore.
Non.
Il faut savoir que dans le même temps, parce que c'est assez extraordinaire et triste à la fois, que la riposte qui est en train de s'organiser pour Gaza, bon, il y a l'histoire de bombarder Rafah, mettre des soldats sur place et tout. Il y a aussi une autre riposte dont on n'a pas beaucoup parlé, qui consiste à doubler le mur d'enceinte de Gaza. Alors vous savez que c'est déjà très très costaud à l'extérieur, et puis le mur lui-même, à doubler à l'intérieur, c'est-à-dire encore remanger plusieurs kilomètres carrés du territoire de Gaza pour refaire un deuxième mur et des fossés, etc. C'est-à-dire, on réduit la taille de la prison.
Hein. Oui, oui.
Donc c'est à ça qu'ils pensent, les pousses au crime, les va-t-en-guerre et les extrémistes du gouvernement Netanyahou. Donc il y a ça aussi, c'est-à-dire, ils ne sont pas, enfin ces gens-là, cette partie du gouvernement Netanyahou n'est pas en capacité mentale d'imaginer autre chose que de la violence sur les Palestiniens. Bon. Alors on appelle ça, en psychiatrie, je ne suis pas psychiatre, mais c'est de l'aliénation, ça s'appelle. Ne pas imaginer autre chose que la violence pure et le racisme pur.
Oui, ça fait quand même un siècle pratiquement.
Mais voilà.
L'État d'Israël a été attaqué, c'est la première fois.
Ah tout à fait, tout à fait. Ils sont sortis de la prison, donc c'est pour ça que l'idée c'est de dire on rajoute un deuxième mur, puis un troisième mur, etc. Après il ne restera rien. C'est ça l'idée, c'est une espèce d'idée réflexe, mais c'est une idée, c'est une camisole de force sur la population palestinienne. C'est exactement ce langage-là qu'il faut tenir. Bon, voilà ce qui mérite d'être dit sur ce conflit-là. Alors, quelques mots sur la situation en Ukraine. Je l'ai évoqué à propos des légionnaires français, du corps expéditionnaire français. Il faut savoir que sur le terrain, la situation évolue très très vite, même s'il n'y a pas d'énormes mouvements de troupes, mais que les mouvements de troupes, quand il y en a, sont des mouvements de troupes de l'armée russe qui avancent sur le front. Ça, c'est une première chose qui est importante à noter. Alors, ils ne font pas comme font les Ukrainiens, c'est-à-dire lancer des vagues d'assaut qui sont décimées au canon dans le moment où elles marchent à découvert, mais ils avancent petit à petit avec des postes défendus, etc. Bon, ça, c'est une première chose. Mais ce qu'il y a d'extrêmement nouveau, et ce sur quoi je veux insister, c'est qu'il y a désormais des partisans de la Russie dans la population ukrainienne. Alors des partisans, j'emploie le terme parce que c'est le vrai terme, c'est-à-dire c'est des résistants, comme on en a eu en France entre 1941 et 1945, c'est des partisans qui donc sont d'accord pour que le gouvernement ukrainien arrête sa politique de massacre et de... enfin sa politique d'extrême droite, et qui donc aide l'armée russe dans ses opérations. Et c'est très très révélateur parce que ça ressemble mot pour mot, alors qu'il est passé beaucoup, beaucoup de décennies depuis, vous avez des partisans ukrainiens qui vont faire sauter des gares en Ukraine. Des gares d'où partent des convois militaires avec des chars d'assaut dessus, des munitions, etc. Ça renvoie exactement. Alors, souvenez-vous, si vous avez vu La bataille du rail, le film de René Clément qui parle de ça pendant la guerre, on est exactement dans cette situation-là. C'est-à-dire là, c'est un vrai tournant. Les partisans sont en... ils existaient probablement, il y avait forcément dans la population ukrainienne des gens qui n'étaient pas d'accord avec le gouvernement de Zelensky. Mais entre le moment où on n'est pas d'accord et le moment où on dit maintenant, c'est le moment de prendre le risque parce que là, ça aura de l'effet et je vais être en capacité de faire quelque chose, et où on s'en prend à des trains de marchandises militaires, là, on est passé de l'autre côté, on n'est pas...
C'est un peu comme la guerre d'Algérie.
Pareil,
quand
oui,
il y a eu des partisans français qui
ont
arrêté le train à Marseille, je crois. Non ?
Tout à fait. Donc voilà, le basculement, il est aussi là. Et ça, on ne l'a pas assez dit. Puis ça, c'est très, très gênant. Parce que aller dire sur les ondes de BFM, c'est les partisans ukrainiens qui ont fait sauter un train de marchandises de militaires russes, ukrainiens, c'est pas possible.
Ouais.
C'est pas possible.
Ouais. Hein.
Mais ça, c'est la nouvelle donnée de la situation. Et ça veut dire très concrètement que dans sa profondeur, l'opinion ukrainienne a commencé à comprendre qu'il y avait une issue possible. Une issue possible qui ne soit pas simplement obéir aux va-t-en-guerre et aux extrémistes et aux jusqu'aux boutistes qui sont encore autour de Zelensky à Kiev. Ça, c'est très très important à noter. Et puis par ailleurs, les actions de l'armée russe sont non seulement des actions sur le front lui-même. Je rappelle que c'est... Enfin, on ne se rend pas bien compte, parce que quand Macron dit « je vais envoyer des soldats », il ne se rend pas compte qu'on a affaire à un front de 1200 kilomètres. C'est beaucoup plus gros que le front pendant la guerre de 14. Ouais. C'est beaucoup, beaucoup plus grand, avec d'énormes moyens techniques mis en œuvre. Ça, on fait comme si on n'avait pas avancé. Et donc, en même temps qu'elle fait ça, donc la Russie avance petit à petit, la Russie va attaquer les centres militaires et les centres maintenant de production d'énergie sur tout le reste du territoire ukrainien. Et ça, ils ont les moyens matériels de le faire. C'est-à-dire qu'un pays qui est privé en permanence d'électricité, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a une centrale qui est abîmée, on n'a pas le temps de la reconstruire, ou si on la reconstruit, elle est à nouveau détruite, ça ne peut pas durer 25 ans comme ça. Parce que sans énergie, il n'y a plus de trains qui circulent, il n'y a plus d'usines qui fabriquent des munitions, il n'y a plus rien. Hein. Donc il y a un moment où la capitulation se profile pas très très loin. Alors, qui ne voudra pas de la capitulation ? Ben, c'est ceux qui pensent qu'il faut absolument gagner la guerre. Ils sont probablement de moins en moins nombreux. Et il n'est pas exclu, alors on le saura après, qu'il y a un certain nombre de gens, y compris dans l'entourage de Zelensky, qui soient en train de se dire il faudrait trouver une porte de sortie si on ne veut pas que le pays disparaisse. Ça ne se fera pas tout de suite, mais les actions menées par l'armée russe vont dans ce sens, c'est-à-dire affaiblir les capacités productives sans détruire la population. Il ne s'agit pas de raser des villes, ni quoi que ce soit. Il s'agit de diminuer les capacités productives de l'industrie ukrainienne, ce qu'il en reste. Ce qu'il en reste, parce que combien, alors, question sous-jacente, combien reste-t-il d'Ukrainiens en Ukraine ? Personne ne le sait. Personne ne le sait. On sait que tous les Ukrainiens qui ont eu l'occasion de trouver un poste frontière ont saisi cette occasion-là, que ce soit en Roumanie, que ce soit en Pologne, que ce soit en Slovaquie. Bon, tous ces gens-là l'ont fait. Il y en a, et des Ukrainiens, il y en a partout maintenant. Il y en a en France, il y en a partout.
C'est quoi. Des très bons réfugiés, quoi.
Oui, c'est des très... Alors, en plus, on les a gâtés. On les a gâtés assez souvent. Et donc, l'état de faiblesse réelle, sans compter les centaines de milliards de dollars, sans compter toutes les munitions à titre gratuit, sans compter tous les chars d'assaut à titre gratuit, sans compter, etc., etc., il resterait aujourd'hui plus rien de l'Ukraine. L'Ukraine ne fait pas... L'Ukraine est un espèce de pistolet tenu par Biden sur la tête de Poutine, pour faire simple. Et voilà. Et donc, les Ukrainiens n'y sont pour rien. et être réduit en tant que pays au rôle de pistolet dans une guerre qui ne vous concerne pas, je pense que c'est une situation délicate, hein, que tout le monde n'aimerait pas.
De toute façon, l'armée ukrainienne a été complètement décimée. Hein. Il n'y a plus que des...
Alors on en est effectivement, d'après les gens qui observent ça de près, au moins à la troisième armée ukrainienne. La première armée ukrainienne, qui était une armée d'Ukrainiens, a tenu de mars 22 à juin 22 à peu près. Après ça, il n'y avait plus de troupes ukrainiennes stricto sensu. Ouais. Et puis, il y a une deuxième étape, donc la fin de l'année 22, puis le début de l'offensive, où on a une deuxième armée ukrainienne. Et celle-là est probablement disparue aussi, armes et bagages, j'allais dire. Et donc, on en est à la troisième, qui n'est plus une armée ukrainienne. C'est une armée sur le territoire de l'Ukrainien, avec un chef d'état-major ukrainien, qui a dans le bureau à côté un monsieur de l'OTAN qui lui dit ce qu'il faut faire et qui lui dit, de toute façon, les munitions arrivent, t'inquiète pas. Et donc, et même ce monsieur se dit, mais les munitions n'arrivent pas assez vite, parce qu'il a, lui-même en a plus.
Et qui recrute des jeunes de mineurs.
Oui, des mineurs.
Ah oui.
Oui.
Il y a, d'une part, les jeunes mineurs, ils sont en train d'essayer de recruter des femmes, et ils essayent de recruter au-delà de 45 ans. Et donc, parce qu'il n'y a plus personne. Et tous ceux qui sont vus dans la tranche d'âge qui était visée ont essayé par tous les moyens de s'en aller. C'est tout à fait clair. Alors, il y en a certainement beaucoup en Moldavie, beaucoup en Roumanie, beaucoup, un peu partout. Mais... personne, enfin, ils ne peuvent pas avoir de l'ambition. D'autant plus qu'attends, même si on est un citoyen ukrainien qui aime bien son pays, qui veut que son pays dure, il sait que ce pays est soumis à une espèce d'état de siège. Les partis politiques sont interdits, les syndicats sont interdits, le code du travail a été pratiquement éliminé, il n'y a plus de code du travail, donc on est dans une société sauvage. Et aujourd'hui, l'Ukraine, qui était, je rappelle, en 1991, la République socialiste soviétique d'Ukraine était la République socialiste la plus avancée de toutes les républiques socialistes, oui, de très très loin. On considérait à l'époque que son niveau de développement était analogue à celui de l'Allemagne, en 91. Hein, il n'en reste pratiquement rien. C'est un pays du tiers-monde aujourd'hui, hein, dont on nous fait croire ceci et cela. C'est pas du tout comme ça que ça se passe.
C'est ça. C'est exact.
Hein. Et on a, l'expression est connue, puisqu'on a dit, les États-Unis ont dit, nous ferons la guerre à la Russie jusqu'au dernier Ukrainien. Hein. Donc ils sont là comme uniquement, va, ouais. C'est la légion étrangère, c'est la légion étrangère de masse, hein, c'est l'Ukraine. Ouais. Voilà, c'était important aussi de recaler ça, parce que à certains moments, dans cette actualité très foisonnante, on oublie de parler de ce conflit qui prend maintenant un autre allure, c'est tout à fait clair. Et qui prend aussi des allures intéressantes dans la façon dont la Russie avance dans sa politique. Et c'est intéressant de noter, parce que c'est pas si fréquent, et ça va à l'encontre de ce que je vous disais entre le beurre et les canons. C'est la, j'appelle ça l'alternative mussolinienne, puis c'est lui qui le premier avait utilisé cette expression, encore qu'on ait pu l'appliquer à tous les gouvernements guerriers de l'histoire. Hein. Mais lui, il a dit très clairement, moi je suis là pour choisir entre le beurre et les canons, et moi je choisis les canons. Et votez pour moi. Bon, ils ont voté pour lui, bon, erreur. Et donc, ce choix-là, en fait, la Russie ne veut pas le faire. Et j'en prends pour preuve le fait que Poutine est allé parler au cours du congrès, comme ils s'en réunissent tous les 2-3 ans, de la Fédération des syndicats russes. Donc, il y a des syndicats en Russie. Alors, ils ont beaucoup souffert du temps d'Eltsine, etc. Mais il y a quand même entre 20 et 25 000 adhérents, donc qui sont dans les syndicats en Russie. Et il est allé leur dire, mais moi, ce qui me préoccupe, c'est bien sûr qu'on élimine ce problème avec les Ukrainiens, mais surtout d'augmenter le salaire minimum, donc d'améliorer les conventions collectives. Et il est en train de le faire. C'est ça la différence. C'est-à-dire, il dit, oui, je m'occupe bien sûr des canons, parce qu'il faut qu'il y en ait, parce qu'il faut qu'on passe cette mauvaise phase, mais je ne le fais pas sur votre dos. Et ça, c'est très très important, parce que c'est un discours... Enfin, si Macron tenait ce discours, à la limite, on pourrait dire, mais Macron est intelligent, mais on ne peut pas le dire. Eh bien, c'est très très difficile. Hein. Macron, il est dans ce rôle de... Alors, il faut voir, si vous avez l'occasion, regardez, la caricature macronienne qui circule maintenant sur les réseaux internationaux est extraordinaire, parce qu'on le voit en espèce de Bonaparte, casqué, beauté... Enfin,
ou alors un boxeur voilà, qui le chatouille voit. Un peu.
Oui, oui, ben, alors, mais il est la risée de tous les caricaturistes du monde entier. On le voit aussi à cheval sur un canon, en position d'obus, etc. Bon, voilà. Et ben, alors, c'est un peu douloureux. On est citoyen français, on dit ben, notre président, il est pris pour un guignol dans le monde entier. Et pourtant, c'est ça la réalité. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il n'y a d'ailleurs pas assez de gens, y compris dans les gens qui sont chargés d'exprimer la position de la population, c'est-à-dire les partis politiques français, devraient être plus clairs sur ces questions-là. De dire, regardez, hein, notre pays est représenté par quelqu'un qui ne mérite pas d'être à ce poste. Hein. J'en arrive à cette idée que j'ai dans la tête depuis quelques temps. Vous savez qu'il y a dans les rues de Marseille, je vais vous livrer, un panneau sur les encombrants. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Alors qu'est-ce que c'est qu'un encombrant ? Ben, vous avez, je ne sais pas, un vieux canapé ou une vieille armoire dans la salle de bain qui est abîmée et vous allez, on va la jeter à la poubelle. Alors normalement, si vous êtes un citoyen sérieux et organisé, vous appelez la mairie, vous dites voilà, j'ai ça à jeter et vous dites ben, le camion passera tel jour, mettez-le le soir pour le lendemain matin avec un numéro qu'on vous donne et il y aura un camion qui emmènera ça à la déchetterie, vous n'aurez pas à le faire, c'est très bien. Tout le monde n'a pas une camionnette, une voiture pour faire ça. Parfait.
C'est ce qu'on va faire.
Ben alors, c'était une métaphore. Je dis, après tout, les encombrants, il y en a aussi en politique, des gens qui ne sont pas à leur place, qui ne sont pas bons. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, dans un pays, dans une démocratie bien organisée, quand il y a un encombrant à la tête, ben, il y a un mécanisme de renversement, enfin de substitution, et donc il y a de nouvelles élections, un référendum, etc. Et on dit, ben, il n'a pas fait l'affaire, on en prend un autre. Et ça ne veut pas dire qu'on va le passer par les arbres. Hein, on va dire, ben, il n'est pas bon, hein, et donc on vote, il n'est pas bon, mais on en prend un autre. Ça, c'est un mécanisme de remplacement de l'encombrant civilisé. Effectivement, si on n'arrive pas à s'en débarrasser, que l'encombrant traîne dans la rue, il reste plus grand-chose à faire. Enfin, c'est une espèce d'appel à l'émeute, vous n'avez pas, on n'a plus rien à faire. Bon. Alors, ça m'a fait repenser sur le tard, parce que c'était pas idiot. Vous vous souvenez d'Hugo Chavez, donc le président vénézuélien, qui avait inventé quelque chose de très, très intelligent, qui était le référendum révocatoire. Alors, qu'est-ce que c'était qu'un référendum révocatoire ? C'était un référendum qui pouvait s'appliquer à n'importe quel élu à une fonction. Ça pouvait être un maire, ça pouvait être un conseiller régional, ça pouvait être le président de la République. Et il était dit dans ce processus, dans cette procédure de référendum révocatoire, qu'au bout d'un an ou un an et demi de mandat du président tel qu'il avait été élu sur son programme, la population, en demandant un appel à référendum et avec un certain nombre de signatures, pas simplement 4-5 signatures, pouvait dire « Bon, ce président avait annoncé ça, il ne le fait pas. Bon, on fait un nouveau vote, toute la population, et s'il est battu, il s'en va et on en prend un autre. » C'est ça, c'est-à-dire, donc, à court de mandat, pendant, vous savez que les mandats classiques des présidents, maintenant, ça tourne autour de 5 ans, c'est un chiffre assez connu. Bon, au bout de 2 ans, s'il n'a pas fait l'affaire, on en prend un autre. Et donc, on ne va pas s'entretuer dans les rues entre citoyens vénézuéliens, on va dire, bon, lui, il n'est pas bon, on est un certain nombre de gens à le penser, on fait un vote de la totalité de la population, et si le référendum décide de la révocation, il s'en va. Bon. Ça, c'était un mécanisme civilisé d'enlèvement de l'encombrant. Bon, il n'y en a pas dans la Constitution française, donc on a un encombrant, il est là, il gêne la France dans son progrès, il gêne la France même dans son expression, pas que politique, culturelle et tout, enfin tout est marqué par cette espèce de personnage. Enfin, il faut bien se rendre compte depuis 2017 qu'on passe d'une crise politique à une autre, accompagné de déficits budgétaires abyssales, de difficultés de toutes sortes, parce que on a les gilets jaunes, on a les retraites, on a etc. Ça n'arrête pas. Ce monsieur est un fabricant de crise en permanence. Hein. Et donc là, on est bien tout à fait dans le cas du référendum révocatoire. Et parce qu'aucun, là où l'opposition est tellement divisée et hétérogène qu'elle ne peut pas le faire, et donc il ne resterait que laisser la population s'exprimer. Alors, c'est un vœu que je jette comme ça sur les ondes, mais je pense qu'il faut réfléchir à ce type de mécanisme, comment se débarrasser proprement d'un encombrant, sans venir à la guerre civile. C'est pour ça que je parlais de civil war monumental. J'en veux pas, personne n'en veut. Il n'y a que ceux qui tirent les ficelles qui aiment les guerres civiles, les autres, ils n'aiment pas parce qu'ils meurent. Donc, c'est pas bon. Donc, on en est là de la situation française, mais ça mérite qu'on en discute, qu'on y réfléchisse, en sachant bien que ce n'est pas les élections au Parlement européen qui changeront un iota de cette question-là, loin s'en faut. Voilà ce que je voulais dire. On va finir par une petite musique. petite musique qui va être une espèce de synthèse. Alors, il s'agit d'un morceau d'une chanson écrite et chantée par un rappeur burkinabé qui s'appelle Armani Kaji et qui s'appelle Impérialisme. Alors, je vous invite à la regarder sur YouTube, si vous pouvez le voir sur YouTube, parce que l'iconographie, la partie visuelle, les images sont très, très belles et très adaptées au sujet. Mais la chanson en elle-même est déjà pas mal. Et donc, vous pouvez essayer de voir les images en plus.
Burkina voilà. Faso, quoi.
Voilà, Burkina Faso. Voilà. En tout cas, merci à nos émérites techniciennes. Merci Roselyne, merci Clélie.
Merci à vous.
Et merci à tous les auditeurs qui nous ont écoutés. Merci à Véronique d'être venue. Merci à Bib aussi.
Nous ne sommes pas indépendants, nos terres sont leurs champs, nos richesses sont pour ces marchands. Ils commanditent des poches, place des hommes louches, entérinent les guerres civiles, font la promotion des débiles. Ils ont chassé Laurent Gbagbo, l'ont remplacé par Ado, pistonné Ali Bongo. C'est la France des Jojo. La France et les États-Unis, le même Paris. Nous dominer à tout prix, nous mettons ta vie. La France et les États-Unis, le même Paris. Nous dominer à tout prix, nous mettons ta vie. Ils ont chanté nos peuples, nous font avaler des couleuvres. Opération Barkhane au Mali. La France n'a pas d'amis, pareil pour les États-Unis. L'Irak envoyé au tapis par l'impérialisme yankee pour satisfaire sa boulimie. Élimination de Kadhafi pour dépouiller la Libye. Infiltration des Compaorés pour se foutre des Burkinabés.